Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre
ou Dormir. Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Le 3 avril 2018, Elsa Dorlin était à Terra Nova, présentée par Oria Bentouami.
Donc se défendre, une philosophie de la violence, dont elle nous expliquera le titre, notamment le sous-titre, mais on y reviendra. Donc on a ce voilà, très grand plaisir d'accueillir Elsa Dorlin, qui est donc professeure de philosophie sociale et politique à l'Université Paris 8, qui est autrice d'ouvrages de référence et notamment donc la fameuse matrice, le fameux Matrice de la race, donc une généalogie, pardon, excusez-moi, coloniale et sexuelle, si je me souviens bien ça, hein, sexuelle et raciale, pardon, de la nation française, donc paru en 2006, et également donc un petit ouvrage d'introduction aux philosophies féministes qui s'appelle Sexe, genre et sexualité. Et ses travaux, en général, portent sur le black feminism, donc le féminisme noir, et elle en est l'introductrice, notamment en France, l'une des grandes introductrices, puisque elle a traduit et puis notamment expliqué cette traduction en termes aussi, disons, philosophie conceptuelle, des notions donc de ce mouvement à la fois théorique et politique, donc que fut le féminisme noir aux États-Unis. Et ces questions donc touchent notamment également à tout ce qui relève du care, pris dans cette perspective qu'on pourrait dire à la fois postcoloniale, en tout cas qui relève d'une généalogie raciale aussi, des théories, des pratiques du care, ce qui se ressent pas mal dans son dernier ouvrage. Tu me dis si jamais je dis tes bêtises. Hein. Alors, se défendre précisément, ce qui nous réunit ce soir. Et à la fois dans la continuité donc, de ces ouvrages-là, et en même temps est très novateur, et puisque la question qui inaugure l'ouvrage est qui a le droit de se défendre, et notamment de se défendre en disposant d'armes. C'est la question inaugurale, et effectivement, rien que la poser comme telle, c'était, enfin, en tout cas pour moi, ça a été, je me dis, mais oui, pourquoi on ne s'est pas posé cette question-là plus tôt, finalement. Et en l'occurrence, la perspective qui est développée dans cet ouvrage part de deux choses, en tout cas de deux approches de la défense de soi, du rapport à soi, donc dans le fait de se défendre, qui est à la fois l'autodéfense et la légitime défense. C'est vraiment, c'est dans cette... dans cette espèce à la fois de face à face qui est très, très politique que tu engages la discussion historique et philosophique et politique de la question de la défense armée. Et tu as plusieurs scènes, tu pars disons de plusieurs scènes que tu as mises, scènes historiques. Et la plus frappante, en tout cas au début, la première, c'est celle du supplice de Millet de la Girardière à Pointe-à-Pitre en 1802. Donc je te laisse après en discuter exactement sur pourquoi cette scène et en quoi est-ce que la question de la défense, de ce fait de se défendre, de l'autodéfense, est une question politique en tant que telle et en quoi elle se distingue de la légitime défense. Je prends celui-là. Merci. Je ne sais pas si ça marche. Merci beaucoup. Merci, Ouria. Et merci
Terra Nova, et merci à vous d'être là. Peut-être le point de départ, en fait, avant de parler du supplice, c'était aussi de dire que le projet initial, c'était de faire un livre sur les philosophies, les mouvements d'émancipation noire, plutôt africain-américain et caribéen, et que en rentrant dans ce projet, la question de la violence, elle est apparue très rapidement. Et elle est apparue posée en des termes qui me semblaient assez inédits, en tout cas par rapport à des approches plus communes. C'était de dire que la violence était de toute façon, ne devait pas se poser en termes de légitimité ou d'illégitimité, par exemple en termes de est-ce que c'est un moyen qu'on peut utiliser pour se battre, pour résister, etc. Mais que c'était quelque chose à appréhender comme une pratique de soi, de toute nécessité. C'est-à-dire que la question de la légitimité ou l'illégitimité était complètement évacuée au profit d'une analyse critique de la légitime défense comme étant de toute façon ce qui recouvrait la violence des systèmes ségrégationnistes, racistes et de l'État racial. Et que donc toute la question de la légitime violence en fait était un outil de désintégration des mouvements sociaux et des mouvements de résistance, et qu'au nom de la légitime défense, en fait, en tout cas dans toute la tradition des pensées noires, que ce soit aux Antilles ou aux États-Unis, la question de la légitime défense avait toujours été un permis de tuer donné aux colons ou aux blancs. Et donc en partant de là, d'où la question de la philosophie de la violence, c'était vraiment l'idée de travailler sur une réflexion et une praxis qui appréhendait la violence d'une façon évidemment très inspirée de Fanon, comme cette idée qu'avant même de le penser comme un outil politique, la violence était quelque chose qui nous traversait, qui nous constituait, et que de toute façon nous devions en faire quelque chose, et que nous en faisions déjà quelque chose, soit en des termes parce que nous étions complètement traversés par elle, annihilés par elle, mais que aussi constitués comme des sujets dans cette violence. Et donc, quand je suis partie de là, l'idée avait été de reprendre une réflexion sur à la fois comment on pouvait caractériser cet usage de la violence qui traversait des formes de gouvernementalité et la répression raciste, coloniale et postcoloniale, et comment on pouvait en même temps repenser les formes de résistance en reposant au centre la question de la violence, non pas comme quelque chose qui serait illégitime, mais comme quelque chose qui était toujours utilisé de façon rhétorique pour délégitimer les mouvements de résistance. Donc la violence était là, il fallait la penser comme une praxis. Et donc je suis partie dans une posture très critique par rapport à la légitime défense, et l'idée c'était de faire une histoire de la légitime défense qui montrait effectivement que la légitime défense n'avait été historiquement et philosophiquement accordée qu'à des individus qui étaient déjà considérés comme légitimes à se défendre, et surtout était la légitime défense avait toujours déjà été accordée à des sujets que l'État défendait a priori. Et à partir de là, l'exclusion du droit à la légitime défense renvoyait à la fois aux peuples colonisés, aux esclaves, aux minorités raciales et sexuelles. Et voilà l'état des lieux. Donc ça crée une forme de paysage, en fait, ou d'appréhension du pouvoir, où pour moi, c'était c'est aussi pour ça que l'ouverture du livre, par exemple, est très foucauldienne. Mais il y avait quelque chose à saisir dans cet usage discriminant de la violence, c'est-à-dire qui est légitime, qui est digne de se défendre, qui est digne d'être défendu en fait par l'État, puisque dans la tradition politique, l'État on abandonne son droit à l'autodéfense au profit d'un devoir délégué à l'État d'assurer la sécurité de tous. Donc, dans ce dispositif, En fait, l'État, évidemment, ne remplit absolument pas cette fonction. En tout cas, il le remplit de façon discriminante, c'est-à-dire qu'il défend certains ou autorise certains à se défendre pendant qu'il laisse sans défense d'autres corps ou alors pendant qu'il rend ces corps indéfendables. Et la question de rendre les corps indéfendables, c'était quelque chose de plus subtil que de laisser seulement des personnes sans défense, par exemple leur interdire l'accès aux armes, leur interdire l'accès aux savoirs martiaux, empêcher leur corps, laisser des corps dans l'ignorance, par exemple, de leur propre violence et de ce qu'on peut activer par la violence, mais rendre des sujets abjects et indéfendables, c'est aussi considérer qu'un certain nombre d'individus sont violents par nature, sont agressifs par nature, et que c'est contre cette violence que l'État seulement réagit. Donc c'est croisé en fait d'emblée un dispositif qui, pour moi, que j'ai essayé de tenir tout au long du livre, c'était d'avoir une analyse à la fois féministe et inscrite dans une généalogie qui est celle de la colonialité du pouvoir et qui me correspondait très bien. c'est-à-dire de prendre cette situation où ce pouvoir discriminant, ce que j'ai appelé le gouvernement défensif, pour qualifier cet État à la fois raciste et sexiste dans la postcolonialité, de le qualifier comme un État qui utilisait la violence toujours dans le cadre de la défense. Il faut défendre l'État, il faut défendre les citoyens de groupes d'individus, il faut défendre les frontières, il faut défendre les femmes. Mais quelles femmes? De quoi on parle, etc. Et qu'est-ce qu'on fait au nom de cette défense des femmes? Et pendant ce temps-là, de laisser ces individus sans défense, ou alors de rendre des individus indéfendables, c'est-à-dire les créer comme des agresseurs nés, qui permet de les massacrer en toute impunité, ou de leur tirer dans le dos, ou de les violenter en toute légalité. Et l'ouverture du livre, c'est un clin d'œil à Foucault, à Surveiller et punir, et à l'ouverture de Surveiller et punir qui s'ouvre sur le supplice de Damien. Et ce que j'ai utilisé, c'est un des dispositifs qui est très commun aux Antilles au moment du rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe. Lorsque les troupes napoléoniennes arrivent en Guadeloupe pour rétablir l'esclavage, elles chargent avec elles un dispositif que les troupes coloniales et napoléoniennes vont aller chercher dans les Caraïbes anglaises, qui sont très utilisées par les Anglais, dans les colonies anglaises, et qui est un dispositif de torture, une technologie de torture qui s'appelle la cage de fer. Et la cage de fer, où beaucoup de révoltés en Guadeloupe vont passer, de condamnés, va consister à mettre un homme dans une cage sur des étriers. Et il est en fait à cheval sur une lame tranchante. Et on va le laisser là, sur la place publique, pendant 2 ou 3 jours, sur des étriers. Et au milieu de ses jambes, il y a une lame tranchante. Et on va l'empêcher de boire et de manger. Et pendant 2 ou 3 jours, effectivement, cet individu, le supplicié, va forcément faiblir physiquement. Ses muscles, en fait, vont se tétaniser. Il ne pourra plus rester à cheval, se maintenir son corps à cheval. Et il va donc progressivement s'affaisser sur la lame de fer qui va lui trancher d'abord les parties génitales. C'est intéressant que ça passe par là. Et effectivement, au premier coup où il va s'affaisser sur cette lame de fer qui va le meurtrir mortellement, le premier réflexe de son corps va être de se relever et d'essayer de sauver sa vie. Et plus le réflexe de se sauver va être puissant, plus il va encore plus épuiser son énergie et plus il va s'affaisser encore de façon plus mortelle. Et dans ce dispositif qui est particulièrement ingénieux, parce qu'il n'y a pas de bourreau, personne ne met à mort personne, on enferme juste quelqu'un avec soi, et dans un rapport de soi avec soi. Et ce que l'on met en place, la façon dont on interpelle ce sujet, c'est qu'il peut faire quelque chose pour se sauver, il peut résister, il peut se tenir debout, mais qu'au fond, plus il va résister, plus il va souffrir. Plus il va essayer de se sauver et de se défendre, de défendre sa vie, et plus, en essayant de survivre, il va souffrir et mourir. Et dans ce dispositif qui est, pour moi, qui se situe en Guadeloupe et qui avait déjà été pensé dans la matrice de la race comme un laboratoire d'expérimentation d'un certain nombre de technologies de pouvoir, émerge là, à mon sens, une nouvelle forme de gouvernementalité des corps qui suppose qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut se défendre et qui va même venir exciter chez les individus cet instinct d'autodéfense, cet instinct de l'instinct, ou en tout cas ce mouvement de survie, cette force de vie, mais pour mieux l'abattre et pour mieux insuffler, y compris au plus profond des individus, que plus ils vont résister et plus ils vont souffrir, plus ils vont s'exposer à quelque chose qui est au fond une sorte de réflexe auto-immune, c'est-à-dire qu'ils vont se tuer eux-mêmes. C'est même pas l'État qui... L'État, évidemment, laisse croire qu'il ne fait rien. En fait, il met les individus dans des dispositifs. Plus vous luttez et plus vous serez abattu. Et pour moi, ça caractérise profondément notre contemporanéité. C'est-à-dire que l'idée, y compris même dans des réflexions qu'on peut avoir entre nous, et qui fait qu'on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire gagner, par exemple, un mouvement, et que quelque chose fait qu'il y a une forme d'épuisement des corps dans les mouvements de résistance, d'épuisement, et qu'on s'expose aussi, que ça demande une certaine force, comme ça, que on lutte pour notre survie ou pour nos conditions de vie, mais que plus on lutte et plus on s'expose à des formes de violence extrême. Donc je suis partie de là pour montrer que, justement, en deçà de cette histoire de la légitime défense, de cette omniprésence des usages défensifs de la violence, où l'État défend un tel, défend ceci, se défend ses frontières, défend... contre les migrants, contre les individus qui sont décivilisés ou incivilisés, etc. Il y avait en même temps une technologie bien particulière d'abattement des résistances qui consistait à aller exciter quelque chose qui est de l'ordre de la vie pour mieux l'exposer au risque de mort. Et de là, ce qui m'a intéressée, c'est d'aller chercher dans certains mouvements politiques, et y compris dans certaines subjectivations politiques, c'est-à-dire y compris en deçà des mouvements constitués à l'échelle de l'individu, de l'individualité. Qu'est-ce qui fait que ce mouvement vital, cette force d'autodéfense, eh bien, elle va résister malgré tout, et qu'elle résistera malgré tout, on va être abattu, beaucoup vont mourir, mais que quelque chose comme une valeur de la lutte résiste, et aussi dans et par la violence. Donc c'est pas une histoire de tous les mouvements d'autodéfense, c'est une histoire de l'autodéfense à l'échelle du muscle, c'est-à-dire de voir comment, quelque part, la contraction d'un muscle pour se sauver, c'est déjà politique. Et il m'a semblé qu'en prenant une histoire constellaire de certains mouvements, j'ai travaillé la violence comme une praxis qui est en fait une résistance de la vie elle-même face à des gouvernements de mort.
Et précisément, quand tu disais que la nouvelle gouvernementalité, enfin la gouvernementalité moderne, on va dire moderne plutôt que nouvelle en tant que telle, puisque ça commence déjà avec l'histoire coloniale et plutocratique, c'est précisément ce retournement de la violence contre les personnes que l'on considère précisément comme étant violentes. Et tu choisis plusieurs scènes comme ça historiques. Donc il y a Millet de la Girardière, il y a l'affaire Rodney King aussi, qui arrive très vite. Enfin, je vais très vite, hein, mais je prends quelques exemples comme ça pour voir justement quel est le lien que tu fais juste à ce propos entre ces différentes scènes. Il y a les suffragettes et le jujitsu, par exemple. Il y a le Black Panthers Party for Self-Defense. Et puis, il y a les Lavender Panthers. Bon, j'en oublie, hein, l'affaire Trayvon Martin, etc. Donc, on voit aussi que les temporalités ne sont pas... Ce n'est pas les mêmes temps, ce n'est pas les mêmes époques, etc. Mais donc, quelle est la réflexion en fait qui est au cœur de l'articulation entre ces différentes Saine. Est-ce que c'est ça, c'est de suivre cette nouvelle forme de gouvernement, enfin cette gouvernementalité moderne, notamment pour Rodnecking, hein, comment est-ce que l'esquisse d'un geste en fait peut être tournée contre soi, y compris dans un tribunal, etc. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est le lien entre tous ces différents mouvements d'autodéfense?
Millet de la Gérardière, donc la Guadeloupe 1802, Pointe-à-Pitre sur la place, donc la cage de fer. Et tout de suite, c'est le prologue du livre, en fait. Tout de suite, je passe à l'affaire Rodnecking, 1991, Los Angeles. Et il y a quelque chose qui est en écho, qui est mis en écho, parce que Rodnecking, donc il y a un jeune taxi, conducteur de taxi, qui a 26 ans, africain-américain, qui va être poursuivi par plusieurs patrouilles de police sur l'autoroute à Los Angeles. Et qui ensuite va finir par être poursuivi sur des kilomètres et des kilomètres par une trentaine de patrouilles, trois hélicoptères, etc. Et va finir par être arrêté à Los Angeles. Ça va être filmé par un voisin qui habite au bord de l'autoroute et qui va filmer toute la scène. L'arrestation de Rodnecking, il y a à peu près plus d'une trentaine de policiers autour de Rodnecking qui vont le tabasser. Et Rodnecking va essayer, plus ou moins, il va refuser d'être arrêté, donc il va se défendre à proprement parler. Il va se protéger avec son bras. Les policiers ont des matraques essentiellement. À la fin, Rodnecking va avoir la mâchoire cassée, plusieurs côtes fracturées, les poignets, etc. Enfin, il a un certain nombre de blessures importantes. Mais Rodnecking tente de se défendre. Et il ne se défend pas de façon politisée dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de théorisation politique de l'autodéfense, mais il est dans une praxis d'autodéfense, dans une force d'autodéfense. Parce qu'il va mourir, en fait. On est en train d'assister à une bavure policière. Et lors du procès des policiers, déjà sur à peu près plus de 36 policiers inculpés, finalement, que 4 se retrouveront au premier procès. Et on va utiliser la vidéo de ce voisin qui avait pris l'ensemble de la scène, d'ailleurs qui va passer sur toutes les télés internationales et qui va participer à la médiatisation de l'affaire. Et lors du procès, en fait, les avocats des policiers qui sont juste inculpés pour usage excessif de la force, ils vont séquencer la vidéo image par image. Et la stratégie, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a quelque chose entre Millet de la Gérardière, la cage de fer et Rodnecking. Il y a une chose qui a changé et qui porte la marque de la contemporanéité, c'est l'image et l'usage des images. Et dans l'usage de la vidéo, le fait de séquencer chaque geste de Rodnecking, lorsque Rodnecking va lever le bras, par exemple, pour se défendre d'un coup de matraque, les avocats des policiers vont dire, regardez, ça c'est un geste agressif. En fait, il a essayé de frapper un policier, donc au ralenti, il montre le geste, et donc vous voyez bien que les policiers étaient en légitime défense. Et les policiers vont être disculpés, vont être innocentés. Au deuxième procès, il va avoir que un policier qui va être. Deux policiers qui vont être effectivement condamnés à très peu de. Enfin voilà, reconnus pour un usage excessif à la 32e. Seconde de la vidéo, etc. Et Rodnecking va déclarer au deuxième procès, on va l'interroger, les juges vont l'interroger, il dira j'ai juste essayé de ne pas mourir. Et voilà, ça, on voit bien là la tension entre plus Rodnecking s'est défendu, plus il a été frappé, plus il a souffert, et plus il est devenu indéfendable, c'est-à-dire plus on a considéré que c'était lui. L'agent de la violence. Et d'ailleurs, dans le cas des hommes africains-américains, on ne les considère pas comme des agents, comme des sujets à part entière. La seule agentivité qu'on leur prête, c'est une agentivité de la violence. C'est-à-dire que ils sont acteurs de la violence. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut légitimer des formes de défense meurtrière à leur encontre. Donc c'est toute cette rhétorique-là autour de la violence qui m'a intéressée et qui était nouvelle. Donc à partir de là, voilà, j'avais la tension entre le prologue, c'est une deux scènes qui posent tous les enjeux de ce, de ce gouvernement, de cette gouvernementalité défensive dans et par la violence, et qui, encore une fois, interpelle les individus, qui vient titiller voilà, cet instinct de vie pour mieux abattre. Et ensuite, il a fallu aller rechercher quelque chose qui était de l'ordre d'une généalogie, des praxis d'autodéfense, et que j'ai choisi sciemment. Je sais que, j'ai, encore une fois, c'est pas exhaustif, mais j'ai choisi sciemment de faire une histoire constellaire en partant d'une analyse à la fois qui était celle de la Ligue sociale et politique des femmes en Angleterre, donc des suffragistes en Angleterre au tout début du 19e siècle, et qui ont utilisé le jiu-jitsu contre la police et contre l'État, et qui étaient dans une analyse anarchiste et socialiste, et qui ont considéré que dans le cas des mouvements, du mouvement féministe, et ce qui m'a intéressé, c'est d'excaver cette histoire du féminisme totalement minorée, y compris dans l'histoire officielle du féminisme, c'est de dire, demander à l'État de protéger les femmes contre la violence, c'est une ineptie parce que c'est l'État qui organise cette exposition à la violence. Et donc, on ne peut pas demander à l'instance qui génère et légitime s'auto-légitime dans l'idée qu'il faut protéger les femmes, défendre les femmes. On ne peut pas demander protection à l'État contre la violence, alors même que l'État expose à la violence. Donc c'était les suffragettes ont été d'abord dans une position de « il faut abattre l'État ». Il n'y a pas de droit à demander, il n'y a pas de protection à demander. On va abattre l'État. Et pour abattre l'État, en fait, le jiu-jitsu est arrivé en Angleterre, d'ailleurs par des voies coloniales. Il était considéré comme une pratique martiale peu virile par rapport à l'idéal du gentleman anglais qui pratiquait la boxe et qui était considéré comme quelque chose de beaucoup plus supérieur en termes de virilité, de force, etc. Et le jiu-jitsu, a donc, quand il est introduit en Angleterre à la fin du 19e siècle, les dojos, les quelques dojos ouverts à Londres, sont ouverts aux femmes parce qu'on considère que c'est un sport efféminé, peu viril, etc. Les femmes, et surtout les militantes, vont commencer à s'entraîner. Très vite, il va y avoir des femmes qui deviennent qui vont pratiquer beaucoup le jiu-jitsu, et notamment Edith Garoud, qui va devenir la formatrice du jiu-jitsu pour un certain nombre de groupes de suffragettes. Et en fait, elles vont d'abord faire du jiu-jitsu contre la police. Et du jiu-jitsu, vraiment, parce qu'elles se font tabasser par la police, emprisonnées. Elles organisent des grèves de la faim dans les prisons. Elles demandent à être reconnues comme des prisonnières politiques. Et elles font du jiu-jitsu pour organiser la résistance. Mais plus elles pratiquent le jiu-jitsu, d'abord dans des caches, parce qu'elles ont des caches, elles ont des salles, etc. Et plus, quand vous commencez à avoir cette appréhension corporelle, musculaire du politique, vous enlevez les corsets, vous enlevez les jupes, vous déployez le corps. Vous commencez à avoir une conscience de votre schéma corporel qui est tout à fait différente d'une conscience telle que vous l'avez quand vous êtes éduquée comme une femme à l'ère, dans cette période victorienne. Donc c'est l'idée que le jiu-jitsu devient une forme de conscientisation féministe musculaire, qu'il n'y a pas de parole partagée tellement, pas d'expérience vécue dans la parole. Et ça a été le premier fil, c'est de dire aussi il y a des formes de conscientisation politique qui passe par la réanimation musculaire de la violence en nous. Et donc, c'est pour ça aussi que le livre a eu un écho par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à MeToo ou à Balance ton porc. Ça a été une position de dire, c'est pas tellement la question, ce que j'ai rappelé, c'est pas tellement la question, oui, à chaque fois on me disait, alors est-ce que vous trouvez que c'est bien qu'enfin on parle des violences? Mais en fait, on en a toujours parlé des violences. Enfin, c'est juste que personne n'a écouté, mais en fait, il y a toujours une parole. Et ce n'est pas la question que les femmes parlent entre elles de la violence. C'est la question aussi que ça appelle, ça laisse encore le féminisme dans des formes de logorée. Et qu'à un moment donné, il va falloir passer à se rappeler d'une autre généalogie du féminisme qui passe par les genoux cassés. Voilà.
Justement, à ce propos, C'est une autre généalogie aussi qui dit que le meilleur moyen de se défendre est justement de ne pas se constituer comme victime. Parce que dans ce qu'ils ont dans la voie, on va dire, juridique, hein, c'est-à-dire on judiciarise presque les violences faites aux femmes, etc. Il y a cet aspect de, notamment par exemple les questions, bien sûr, de viol, d'agression sexuelle, etc. Il y a l'idée qu'être une bonne victime, c'est à la fois être sans défense et en même temps démontrer qu'on s'est défendu, pour montrer qu'il n'y avait pas consentement. Donc c'est complètement plombé par la question du consentement. Et la question de la défense, finalement, n'est là que pour valider cette idée qu'il y a violence ou agression, etc., que lorsqu'il n'y a pas consentement. Donc c'est vrai que là, on a quelque chose qui est complètement... Ça, on ne se pose plus la question. Enfin, le débat n'est plus obnubilé par la question du consentement. Enfin, en tout cas, la violence n'est plus abordée de ce point de vue-là. Puisque, comme tu le dis, c'est plus du tout par... Enfin, c'est pas simplement, en tout cas, par la parole, même si ça... Parce que c'est quand même les suffragettes, donc il y a quand même une part de revendication quand même. Mais ça passe, voilà, par cette opposition, non, par le muscle. Alors, qu'en est-il du soin dans ce cadre-là? C'est-à-dire, c'est sur quoi tu as beaucoup travaillé aussi, c'est-à-dire comment, lorsque l'on inflige, qui est une question que posait Fanon, lorsqu'on inflige la violence, qu'il y a des répercussions sur celui qui, justement, exécute cette violence, la pratique, casser des genoux, oui, mais tu vois, quel effet ça fait sur le soin de ton rapport à toi-même, en réalité, et dans quelle mesure est-ce que ça vient pas aussi... Ça ne participe pas aussi d'une inflexion de la violence à soi. Je ne sais pas si je suis claire. Mais voilà, il y a des répercussions. C'est-à-dire qu'on n'inflige pas une violence impunément. Pour soi, je parle. Par rapport à la question du soin, du care, vraiment cette idée-là. Même dans la manière dont on prend soin de soi, est-ce que ce n'est pas juste répondre à la violence? Parce que c'est pas, tu dis que ce n'est pas purement réactif. Hein, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'homme. De la conscientisation politique, donc d'une forme d'organisation à ce niveau-là. Donc voilà, qu'en est-il est-ce qu'il y a ce genre de discussion du soin de soi? Comment est-ce qu'on on fait
En fait, c'était aussi de partir du recours à la cette violence au sens où elle atteint notre vie. Donc on est dans des questions en fait de vie ou de mort dans une certaine mesure, ou en tout cas de vie exposée au risque de mort. De façon graduée, mais ça concerne les violences, le matériau ou l'expérience, y compris, relève notamment de la violence sexiste, raciste, ou c'est des formes d'exposition au risque de mort. Donc la question de la violence est une question vitale. Et quand on prenait l'idée, quand je dis casser des genoux, et qui évacue effectivement le consentement, c'est de dire il y a des formes aussi de de recoller à son corps. C'est justement d'essayer d'évacuer une dimension très discursive, très psychologisante, très. Voilà. D'aller en deçà et de presque un niveau immanent. De recoller à son corps, parce que ce que j'ai essayé de montrer, et c'est toute la fin du livre, c'est effectivement la plupart on pratique tous l'autodéfense et on a des formes d'autodéfense qui sont pas labellisées comme de l'autodéfense, mais par exemple dans l'expérience si on prend l'expérience de la violence sexiste, il y a des formes d'autodéfense qui consistent à d'abord ne pas ne pas écouter si on est inquiète, par exemple si quelqu'un nous suit ou on a l'impression que quelqu'un nous suit et on va dire non, c'est moi qui suis parano, en fait c'est moi, voilà. Ou si quelque chose ne nous plaît pas, on va être tous dans des formes de distorsion de soi avec soi. On va se dire non, c'est moi. J'ai pas bien compris ce qu'il m'a dit, j'ai mal interprété, etc. Et ça, c'est des formes de double conscience qui nous distordent, en fait, qui fait que ça crée des formes de disjonction. Et ça, c'est une forme d'autodéfense, mais c'est une forme d'autodéfense que moi, j'ai appelé le sale care, en fait. On prend soin de soi, mais on prend salement soin de soi, parce qu'on prend sur soi, constamment. Mais ça marche aussi pour la question... de prendre des, constamment des interpellations racistes, etc., et de passer outre, de faire comme si on n'avait pas bien entendu, ou au bout d'un, parce que c'est épuisant, en fait. On ne peut pas être constamment dans la réponse. Donc, c'est, mais c'est des formes de protection, mais qui vont impliquer une déformation du rapport au monde, une forme de distorsion avec soi, etc. Et donc, ce que j'ai essayé de montrer par d'autres pratiques d'autodéfense, et notamment des pratiques martiales, des pratiques corporelles, un retour à l'échelle du muscle, etc., et que j'ai beaucoup travaillé avec le Black Panther Party for Self-Defense, c'est que l'autodéfense, dans certains mouvements politiques, elle a été une forme d'éthique de soi, avant tout. C'est-à-dire pas dans une forme d'emblée de « Allez, on a décidé qu'on allait faire une expédition punitive », c'est pas du tout en ce sens-là. C'est d'abord des formes d'éthique de soi, c'est-à-dire des ascèses martiales, des exercices de soi, comme si la martialité créait un autre, d'abord un autre rapport de soi à soi, nous faisait recoller à nos corps. Essayer de rappeler en fait une forme d'exercice comme ça, où c'est d'abord l'idée de se désintoxiquer, au sens fanonien du terme. La violence, elle désintoxique. Fanon dit la violence, elle désintoxique. Mais pas au sens, le fait de, c'est d'abord et avant tout non pas, c'est pas dans le fait de lancer un coup ou de frapper. La violence, elle désintoxique parce que d'abord, elle me fait recoller à moi-même. Voilà, elle me fait habiter. J'habite de nouveau quelque chose qui est un processus de devenir soi, quoi. Et c'est cette idée-là que j'ai voulu développer. Et ça, c'est vraiment intéressant dans l'exemple du Black Panther Party for Self-Defense, parce que dans le Black Panther Party for Self-Defense, en fait, il va avoir toute une discipline très importante dans le parti qui va à la fois consister par exemple dans des lectures obligatoires des militants Marx, Fanon, Mao, dans des pratiques de Kung Fu, ensuite dans des exercices pour manier les armes, mais toute la question de l'autodéfense publique, elle est sémiologique, c'est-à-dire qu'on montre que l'on peut se défendre. Mais par exemple, tous les textes fondateurs du Black Panther Party for Self-Defense vont bien dire il n'y a pas d'usage de la violence. Par exemple, quand les militants sortent armés à Auckland pour suivre les patrouilles de police qui font des arrestations arbitraires d'hommes africains-américains, on reste armé, il n'y a aucune agression en fait. On n'utilise pas la violence, ce n'est pas une violence explosive. C'est une violence défensive, et qui est d'abord dans des formes de sémiologie, c'est-à-dire on montre que maintenant ça suffit. Après, dans certains cas, on a utilisé les armes. Mais la question du self-défense dans le Black Panther Party for Self-Défense, ça a d'abord été une discipline. Ça a d'abord été une façon, et ils l'ont très bien expliqué, ça a d'abord été une façon de se faire renaître, de régénérer en fait aussi des formes d'identité noire. Et donc c'est des ascèses en fait, des ascèses martiales. Et d'où l'idée que le kung-fu ou toute la philosophie du kung-fu, elle est très présente dans le Black Panther Party for Self-Defense, au-delà de l'arme en fait, de l'arme à feu. Et que dans tout le manifeste du Black Panther Party for Self-Defense, le manifeste en 10 points, l'autodéfense, c'est la question de la discipline de soi, discipline martiale, renaître à soi. C'est la question après de l'autodéfense sociale, c'est-à-dire prendre soin de soi, prendre soin de la communauté. Et donc la première définition de l'autodéfense a été une autodéfense intellectuelle, lire, ouvrir des écoles, ouvrir des cours du soir, une autodéfense sanitaire, ouvrir des dispensaires, faire des campagnes de vaccination, ouvrir des transports publics pour que les personnes puissent se déplacer et être en autonomie, ouvrir des bibliothèques, ouvrir des banques alimentaires, etc., etc. Et c'était ça l'autodéfense politique, avant même la question de l'usage ostentatoire de la violence, même s'il y a eu, des affrontements physiques. Mais la vie, c'était ça. C'était soi, c'est d'abord renaître comme individu, parce qu'il n'y avait pas d'existence d'individu, prendre soin de soi, et ça a été finalement aussi dans la reprise de la philosophie de la violence telle qu'elle avait été déjà énoncée par Malcolm X, et c'est dans tout le conflit avec Martin Luther King. C'est-à-dire, pour Malcolm X, par exemple, l'idée qui était fondamentale, c'est que la question de la non-violence, un des reproches parmi d'autres que Malcolm X fait à Martin Luther King sur la non-violence, c'est qu'il dit il est incompréhensible de prôner la non-violence envers les Blancs alors qu'on ne prône pas la non-violence envers nous-mêmes, entre Noirs. Et Malcolm X a toujours dit il y aura violence envers les Blancs. Mais par contre, l'injonction à la non-violence doit être pour nous. Prendre soin de nous-mêmes. Nous aimer. Se reconstituer comme individu. Enfin, former la non-violence entre nous. Parce qu'il y a des logiques de l'État racial qui a été de dire massacrez-vous entre vous, évidemment. Et donc l'injonction à être dans l'action directe non-violente, elle est problématique pour Malcolm X, non pas pour plein de raisons et que tu connais bien mieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a été aussi dans des formes de reconstituer des formes de soucis de soi et de soucis du nous. Et ça passe par la cèse martiale, par l'autodéfense, par les arts martiaux, par le muscle, et pas tellement par un discours, mais par des pratiques, par une praxis de dons, de faire, d'habiter soi-même et sa communauté.
Du coup, et donc ce serait ça, parce que tu disais que donc il y avait la ruse de la gouvernementalité moderne, de faire retourner, plus tu résistes et plus tu contribues à ta propre mort et à ta propre exécution. Et la ruse des opprimés face à cette ruse du pouvoir, ce serait ça en fait, c'est-à-dire là où vous attendez de moi que je cesse de donner, que je cesse de m'aimer, etc. Eh bien, en réalité.
Et là où vous attendez que la violence me rende fou et fasse que je sois dans une forme de ressentiment, de réaction, que je devienne violent et que cette explosion de violence vous autorise à me tuer avec une balle dans le dos. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que comment la violence prend soin de moi, peut être ce par quoi je prends soin de moi. Alors, je sais très bien qu'après, on est sur un fil hyper compliqué. Parce qu'à quel moment, etc., il y a des moments où il faut vraiment aller monter. Mais, et c'est pour ça aussi que j'ai tenu beaucoup à travailler sur, par exemple, l'insurrection du ghetto de Varsovie. Des formes extrêmes où, évidemment, l'affrontement, il est perdu d'avance. Mais dans l'affrontement, en fait, il y a encore une forme de souci de soi. Quelque chose qui est une valeur, une mémoire et une valeur de la vie qui va demeurer, en fait, dans ce dernier combat. Mais j'ai voulu tenir ce fil là de il y a quelque chose dans la violence qui peut être retraduit comme un souci de soi ou un souci de nous et qui est pas seulement soit dans l'explosion, soit dans l'exposition, soit dans la réaction, et que ça change les corps en fait, et que c'est aussi une ruse parce que c'est pas là où attend le dispositif, ça peut déjouer un certain nombre de dispositifs de pouvoir.
Voilà. J'aurais une dernière question et après on pourra échanger avec la salle. C'est à propos des armes dont tu parles dans l'ouvrage, parce qu'elles sont, enfin, tu peux nous en parler, elles sont très diverses, parce que bien sûr il y a les armes effectivement du Black Panther Party évidemment, mais tu parles de parapluies, de stylos, enfin des armes ordinaires et quotidiennes. Et qui viennent beaucoup justement de ces formes de résistance individuelle, si on peut dire, en tout cas qui ont lieu justement dans des espaces confinés, dans le corps à corps avec l'agresseur, et qui fait qu'on n'a pas nécessairement justement l'arme au sens cette fois-ci vraiment telle qu'on l'entend, c'est-à-dire l'arme létale, au sens voilà, le fusil. Là. Donc est-ce que tu me parles de ces armes-là, ces diverses, et qu'est-ce que ça nous dit justement de la violence à l'échelle du muscle telle que tu en parles?
La première chose, ça a été sur les armes à feu, d'abord, parce que comme j'ai tenu à faire une histoire un peu atlantique entre les États-Unis et l'Europe, essentiellement la France, mais souvent on a une représentation un peu erronée des États-Unis, ou en tout cas contrastée vis-à-vis de la France, en disant oui, mais aux États-Unis, il y a une législation qui autorise le port d'armes. Effectivement, évidemment, et je fais l'histoire de la législation sur le port d'armes aux États-Unis. Qui est concrètement une législation purement coloniale, enfin de laisser des citoyens armés la source de cette autorisation constitutionnelle, de ce droit constitutionnel, c'est la colonisation. Et quand on dit la France est une histoire différente, c'est absolument faux. Dans tous les codes, dans le code français, dans le code noir pour le système plantocratique, dans l'ensemble de la législation rassemblée sous le nom de code de l'indigénat, en ce qui concerne l'ensemble du 19e siècle jusqu'au 20e siècle, il y a une législation d'exception, d'autorisation permanente des colons à porter des armes et à faire justice eux-mêmes. Donc la France, l'histoire juridico-politique de la France n'est pas du tout étrangère en fait à la question de la présence des armes. Et ce qui a fait que quand on a une idée très schématique de dire l'État c'est le monopole de l'usage légitime de la violence, c'est complètement erroné. Il y a une tendance monopolistique, mais l'État a des stratégies de délégation ciblée de cet usage légitime de la violence en laissant certains armés et d'autres pas. Donc tout des processus de désarmement, d'interdiction. Donc par exemple, tout le chapitre sur l'esclavage, c'est effectivement non seulement l'interdiction de porter des armes, mais l'interdiction par exemple d'avoir des outils de travail. Il faut savoir que dans le code noir français et espagnol, plus la couleur de peau était sombre de l'esclave, moins il avait le droit d'avoir des outils pour couper la canne. Donc il coupait à la main. Il faut savoir que la canne à sucre, vous ne pouvez pas couper la canne à la main sans vous blesser au sang, évidemment. Et donc on n'autorisait pas, sauf les métis ou très clairs de peau, pour créer des classes intermédiaires qui soient dans des formes de loyauté par rapport à la société coloniale. Donc cet usage, pas le droit donc des outils de travail, pas le droit aux États-Unis, interdiction à un noir d'avoir un stylo, un crayon à papier sur soi, sinon il était pendu, parce que ça pouvait être utilisé comme une arme. Pas le droit dans toutes les sociétés esclavagistes et post-esclavagistes d'avoir ne serait-ce qu'un geste de martialité. D'où l'idée d'interdiction d'un certain nombre de danses, par exemple, qui étaient des formes de sous-texte d'entraînement martial. Donc c'est toute cette stratégie de désarmement, elle est multiple. Ce qui fait que tous les mouvements de résistance ou les corps résistants ont été dans plutôt un usage des armes par destination et pas d'armes en soi. C'est-à-dire tout peut être une arme. Et tout devient une arme précisément parce que vous êtes dans un élan d'autodéfense. Donc tout peut être une arme. Heureusement en fait, c'est ce qui sauve dans une certaine mesure. Mais il faut prendre cet énoncé au sens, enfin vraiment dans toutes les potentialités que ça peut avoir, tout peut être une arme. Donc il faut jouer avec tout ça. Donc c'est d'où l'idée de ruse, de métisse de l'autodéfense, cette ruse de l'autodéfense, retrouver cette métisse de l'autodéfense. Et la question, moi qui m'a intéressée le plus profondément, c'est la question de l'histoire des pratiques martiales du corps à corps et du close combat. Donc sur l'histoire du Krav Maga, le Jiu-Jitsu, le Kung Fu, parce que ça a été utilisé à la fois dans les mouvements féministes et les mouvements de libération noire, mais aussi dans les mouvements communistes juifs, contre les pogroms et dans l'insurrection, mais c'est des mouvements au corps à corps. Et quand il n'y a plus d'armes, plus d'objets à disposition, le corps devient une arme. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est de faire l'histoire du close combat, en fait, de faire vraiment de cette martialité du muscle, et aussi pour développer cette philosophie de la violence qui est jusqu'au bout, on peut faire quelque chose. Pas il faut faire quelque chose. Ou jusqu'au bout, tu dois ou tu peux. C'est pas quelque chose dans une forme d'injonction néolibérale. Tu le vaux bien. Mais tant qu'il y a la vie. Enfin, c'est une phrase magnifique de Voltairine de Clare, qui est dans le texte de l'action directe et que j'adore. Elle dit l'action directe. Pour Voltairine de Clare, elle est violente ou pas violente, peu importe, c'est une action directe et elle est forcément violente parce que c'est la vie qui ne se soumettra pas. Voilà, pour moi, c'est ça l'autodéfense.
Merci. On va passer au l'échange, si vous souhaitez. Donc, si vous avez des réactions, questions,
commentaires. Une remarque du public sur la question des sports de combat. Une personne pratiquante s'interroge sur les liens entre les sports de combat et notamment le Mossad, le Krav Maga, etc. Donc voilà, interroge un peu cette question-là des sports de combat. La réponse d'Elsa Dorlin.
J'ai pas parlé de sports de combat. J'ai parlé de pratiques martiales. J'ai pas parlé de sports de combat. Technique de combat. Moi, justement, quelque chose dans la question de la sportivation de la martialité, qui est complètement des formes d'euphémisation. Après, il y a plusieurs choses à la fois. Parce que c'est une question de classe, c'est la bourgeoisie qui, en se réappropriant des techniques de combat, en a fait des sports. C'est très intéressant. Parce que la question du sport fait que le corps, à un moment donné, bourgeois, ne peut. Et dans des formes de. Et devient désincarné. Et que la contestation sociale, le corps prolétaire, lui, incarne une forme de force physique très importante. À la fin du 19e siècle, il y a des débats très intéressants sur la question de la boxe, par exemple, etc. Et quand la question du processus d'euphémisation et de sportisation de ces techniques va être pris dans la bourgeoisie, et c'est des façons d'entraîner le corps bourgeois, mais de lui épargner les blessures du combat. Et qu'est-ce que ça signifie aussi ? Ça signifie que désormais, on se bat dans une arène protégée, entre soi, avec des règles où on ne risque pas de se blesser ni de mourir. Donc c'est une façon, en fait, d'éviter constamment l'affrontement de classe. C'est très intéressant. Ça veut dire que l'une des techniques d'autodéfense de la bourgeoisie a précisément non pas d'apprendre à se battre, d'éviter à tout prix l'affrontement. Donc ça veut dire constamment d'empêcher l'affrontement. Donc de mettre des corps intermédiaires, de mettre des médiations, mais de suspendre constamment l'affrontement. Donc la ségrégation sociale est très importante, les arènes, voilà. Ça, c'est une très bonne technique. Et du coup, quand vous ne pouvez pas vous battre, c'est très développé, notamment par James Scott. C'est l'idée que quand vous ne pouvez pas vous battre, vous imaginez le combat à venir, mais vous rendez fou les personnes. C'est un combat différé en permanence. Ça, c'est une technique très efficace pour les personnes en position de domination. Différer le combat. Parce que de toute façon, l'affrontement, effectivement, il va avoir un problème. Parce qu'il y a des traditions martiales différentes en termes de classe. Et la deuxième chose sur l'histoire du close combat, ou du corps à corps, des techniques de corps à corps, moi, c'est ce qui me passionne. Justement, en dehors de toute question de sport, enfin de règles de sport, c'est le combat réel. Que veut dire réel dans combat réel ? Donc, toute la commercialisation des techniques de combat, Krav Maga, Systema, etc., sont des formes de labellisation de techniques plus anciennes, qui aujourd'hui, maintenant, sont des marques déposées. Et notamment, sont une des marques déposées initiées par Tsahal, par les armées, et qui vont se diffuser dans la société civile et vont faire beaucoup d'argent. À partir du moment où vous entraînez des personnes en combat réel, dans des arènes protégées où vous ne pouvez pas porter les coups ou vous battre, risquer de vous blesser, etc., ce n'est plus du combat réel. Si vous entraînez, par exemple, on dit qu'il faut que les femmes fassent de l'autodéfense. Si vous faites de l'autodéfense avec un gars ceinture noire, troisième dan de je sais pas quoi, qui va vous dire alors si tu fais ça, tu fais ça, 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 et tu rentres, tu dois t'occuper de tes gosses, vider le lave-vaisselle et machin, et je veux dire, c'est quoi le réel là-dedans? Vous avez appris trois prises et après, c'est ça le réel? Non, par contre, le réel, vous connaissez très bien le réel, ce que c'est le combat réel. Éviter un coup, vous savez ce que c'est, prendre un coup, vous savez ce que c'est. Une insulte, vous savez ce que c'est, courir, vous savez ce que c'est. Éviter, on est dans le combat réel en fait. Ça, c'est des formes de on marchandise quelque chose. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire du Krav Maga, c'est que l'histoire du Krav Maga, c'est pas Tsahal. L'histoire du Krav Maga, c'est pas ça. L'histoire du Krav Maga, c'est les pogroms en Russie à la fin du 19e siècle. C'est les juifs communistes et sionistes, mais pas le sioniste que l'on connaît, d'abord en Russie, et qui ont mis en place, à partir des formes de boxe, des techniques d'autodéfense au corps à corps, parce qu'il n'y avait rien, et qu'à un moment donné, déferlaient des foules pour aller massacrer ou détruire tout. Et donc, il ne restait plus que ça. Donc, il y a eu des groupes d'autodéfense en Russie, essentiellement organisés par le Bund, parti ouvrier juif. Et le Bund, c'est précisément l'organisateur de l'insurrection du ghetto de Varsovie, c'est-à-dire que les militants communistes juifs vont rester ensuite en Pologne. Pendant qu'une partie des militants qui ont organisé les groupes d'autodéfense contre les pogroms à la fin du XIXe siècle vont faire la première alia, vont se retrouver en Palestine mandataire. Et là va se développer le sionisme révisionniste, va être créé en 1925 le Bétard, etc., à Paris, par le grand théoricien de l'autodéfense et fondateur du parti sioniste révisionniste, qui lui va théoriser une autodéfense offensive qui doit être utilisée contre les populations civiles palestiniennes et qui va faire de l'autodéfense une doctrine nationale. Et qui va du coup reprendre des techniques martiales du corps à corps, mais ils vont considérer que pour constituer une armée israélienne, d'abord sous mandat britannique, les Juifs n'ont pas le droit de s'organiser de façon. Donc ils vont être entraînés par des forces spéciales britanniques qui ont déjà des techniques de jujitsu, de corps à corps, etc., qui ont développé des techniques contre-insurrectionnelles dans d'autres colonies. Ils vont se former, l'armée israélienne, enfin le prélude à l'armée israélienne va se former dans ces techniques-là. C'est une armée pauvre qui a plus que le corps à corps, en fait. Et que ça veut dire que plutôt que d'avoir un front contre front, avec des armes, on va considérer que on va utiliser la philosophie de l'autodéfense qui est corps à corps, on vise le centre. Aucun coup inefficace, aucune perte d'énergie. On vise le centre, on déstabilise, on immobilise. Et on... Voilà. Donc c'est plein de techniques anti-insurrectionnelles. On infiltre, on désoriente l'adversaire, on l'infiltre. On lui coupe les racines, on lui coupe les ressources. D'accord ? Ça veut dire, par exemple, couper les... Enfin, vous voyez, on tape les jambes parce que c'est facile. Quand je disais tout à l'heure casser un genou, c'est très efficace. Casser un genou, l'agression s'arrête. Vous pouvez pas marcher. C'est tout. Donc... ça a été utilisé comme des philosophies, comme une philosophie militaire pour la construction de l'État israélien. Et l'autre point de vue, c'est qu'à partir du moment où arrive le Krav Maga en tant que tel, c'est à la milieu des années 40, qu'il est théorisé comme tel, c'est-à-dire que Krav Maga, corps à corps, technique de corps à corps, il est labellisé comme l'une des armes les plus efficaces de l'armée israélienne, 48. Il va se développer. Et il va ensuite se développer selon une philosophie qui est de dire, donc corps à corps, économie des coûts, efficacité, on vise le centre, on élimine la tête de l'adversaire, enfin la tête, on casse la tête, donc les lieux de transmission, la communication, etc., on désoriente. Et la deuxième chose, vis dans la peur. La peur, c'est ce qui te permet d'être constamment en position d'autodéfense. La peur n'est plus quelque chose qu'il faut évacuer dans la norme de virilité martiale. La peur, dans toute une tradition, par exemple, moderne, la peur, c'est vraiment la vertu la plus efféminée. C'est la vertu des lâches, c'est la vertu des déserteurs, etc. Pour la première fois, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les techniques d'autodéfense de corps à corps dans toutes les armées coloniales et impériales, on va entraîner les hommes à avoir peur. Parce que quand on a peur, on est parano. On réagit aux moindres choses, on est capable de tuer quelqu'un. Et donc la peur va être... Il faut faire en sorte que, y compris quand le Krav Maga va se développer dans la société civile pour faire des citoyens israéliens, des sortes d'unités martiales d'autodéfense de l'État. Faire en sorte qu'il faut que la population vive dans la peur. Il faut que les armées vivent dans la peur. Donc c'est pas des bavures. C'est construit. La peur doit être la vertu citoyenne par excellence. C'est ce qui donne aux États-Unis le fait que des voisins vigilants tuent des adolescents noirs. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui en France, dans un village perdu des Alpes-Maritimes, il y a des panneaux voisins vigilants sur 3 maisons dans un hameau perdu. Et voisins vigilants, c'est juste le signe qu'aujourd'hui, la peur, c'est pas seulement voilà, l'insécurité. C'est le maître mot, c'est il faut faire vivre une population dans la peur parce que devenir bon citoyen, c'est devenir un citoyen assassin. Et d'où la diffusion, y compris commerciale, de dire apprenez à vous battre, faites du Krav Maga, etc. Faire du Krav Maga, la première chose qu'on vous apprend, écoute tes émotions et ton corps te dira par l'adrénaline qu'il y a un danger. Vivre dans l'adrénaline, ça veut dire transformer le monde en un monde invivable. autrui vous tape sur l'épaule pour vous demander l'heure, vous retournez, vous lui fracassez le larynx. C'est ça la société. Enfin, je veux dire, le devenir, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que moi, tout le chapitre sur l'histoire du Krav Maga Israël, c'est ça qui m'a intéressée dans l'histoire du Krav Maga. C'est aussi la façon dont on a traduit politiquement une éthique martiale pour devenir une idéologie meurtrière dans une situation coloniale.
Une personne formatrice en autodéfense féminine s'interroge sur la possibilité de donner l'école, des formations donc par l'État d'autodéfense pour les femmes.
La démonstration du féminisme anarchiste, internationaliste, socialiste anglais, a été de dire on ne peut pas demander protection, ou on ne peut pas demander à l'État des droits, ou protection, ou de défendre, alors même que c'est pas seulement qu'il participe du patriarcat, c'est qu'il est l'instigateur du patriarcat. Donc c'est plus que ça. Alors après, la question, ça a été de dire, je veux dire, même si on fait une analyse très rapide et forcément trop rapide, évidemment, de la situation actuelle, vous ne pouvez pas raisonnablement poser que toutes les 6 minutes en France, il y a une femme qui subit un viol et considérer que l'État continue à mettre de l'argent dans des campagnes publicitaires pour dire, voilà, surtout appeler le 39 machin. Vous comprenez ? Enfin, c'est toujours de la politique d'après-coup, ça porte bien son nom, après-coup. Voilà. Il faut d'abord attendre le coup et puis après on va faire des petites dispositifs politiques. Donc effectivement, vous avez raison, la question elle peut être posée en amont sur l'éducation, mais c'est sur la question de l'autodéfense féministe. Mais l'autodéfense féministe, ça commence avec sur la question de la posture du corps. Hein. Question de l'autodéfense féministe, c'est dans la pratique, dans la question du rapport à soi, c'est dans la question de la connaissance de soi. C'est, enfin, je veux dire, même avant même d'apprendre à se défendre, il y a la question de la construction, comment vous construisez les individus de façon différenciée, dans l'estime portée à soi-même, l'amour porté à soi-même, la conscience de soi, la conscience de son corps. Je veux dire, le problème, c'est que c'est massif, ne serait-ce que dans les jeux. Voilà, si on prend l'éducation, le rapport à l'espace, le rapport à j'ai froid et du coup j'ai une posture ultra féminine parce que j'ai les jambes ultra croisées, ce qui fait que s'il arrive quoi que ce soit, je mets beaucoup de temps à décroiser mes jambes et à pouvoir me poser pour me protéger. Mais tout est fait comme ça. Donc c'est aussi apprendre ne serait-ce que ça, se poser, voilà, se déployer son corps, savoir où, jusqu'où va ma main si elle se déploie, parce que ça fait partie de mon champ de frappe. Donc tous les jeux, en fait, anodins, construisent des schémas corporels qui font qu'il y a une discrimination, non pas entre qui sait se battre et qui ne sait pas se battre, mais qui est en train de désapprendre à se battre et qui n'est pas en train de désapprendre à se battre. Donc pour moi, c'est ça la question. Donc bien sûr, après, on peut demander, enfin je veux dire, après, la question, elle est concrète sur les politiques publiques, etc. Je pense que c'est vraiment, moi j'ai voulu prendre peut-être les choses à une échelle encore plus cellulaire.
Voilà. Une personne du public s'interroge sur la notion de se défendre comme réaction et demande pourquoi le titre n'était pas attaqué.
Bah, en fait, il y a deux choses. C'est d'abord, encore une fois, moi j'ai travaillé sur l'autodéfense et pas sur la question du recours à la violence dans des processus insurrectionnels et dans des, voilà, des praxis politiques qui sont sur un usage concerté de la violence. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une discussion hyper intéressante à l'intérieur, y compris du Bund. À un moment donné, par exemple, en 1903, il y a toute une discussion pour savoir est-ce qu'on passe au terrorisme ou pas. Enfin, voilà, c'est-à-dire à l'attaque ciblée, et le Bund reste dans une pratique d'autodéfense, et il prône l'autodéfense. Donc, j'aurais pu faire ça, je suis restée vraiment dans ce cadre-là, c'était une volonté de ma part de rester dans ce cadre-là, dans la question de l'autodéfense. Après, dans se défendre, c'est intéressant parce que l'idée était que je suis partie de corps qui n'ont rien à défendre puisqu'il n'y a pas de je à défendre. Ce sont des corps qui sont annihilés comme sujet. Donc, c'était justement se défendre. Ce qui m'intéressait, c'est comment se constitue la réflexivité. Comment il n'y a pas de sujet que je défende, comme dans la légitime défense. La légitime défense, c'est en fait un droit donné au sujet propriétaire d'eux-mêmes et propriétaire. Donc, c'est vraiment lié à la propriété privée et au sujet de droit déjà constitué comme, du coup, blanc, bourgeois, etc. Mâle. Se défendre, c'était ce processus par lequel un corps qui est annihilé comme sujet, lorsqu'il va réarticuler la violence dans des formes de défense de vie, défense vitale, se constitue comme sujet. Mais le sujet ne préexiste pas à cet élan. Et la deuxième chose, ça c'est le côté pratique martiale, toute bonne défense est toujours une attaque. Donc en fait, se défendre, il n'y a pas de défense, de réaction en fait. Une défense est forcément une explosion. C'est le principe même, parce que si la défense était purement réactive, protectrice, etc., ce sont des formes de disparition de soi, en fait. Des formes de, c'est, toute bonne défense est toujours une attaque. Après, toute la question, par exemple, politique actuelle, c'est comment, à mon sens, hein, comme de toute façon, il y aura toujours... La violence première est toujours invisibilisée, elle est toujours retraduite comme une violence défensive, légitime, etc. On l'a vu dans plein, évidemment, d'affaires qui sont là, qui se passent maintenant. Tarnac, Valmy, enfin, je veux dire, il y a des tonnes, on pourrait citer des tonnes d'exemples. Mais probablement, à mon avis, stratégiquement, si j'avais une réflexion de pure stratégie politique aujourd'hui, je pense qu'il est... qui serait peut-être intéressant que certains groupes politiques qui sont que l'on pousse, que l'on considère comme non violent, par exemple typiquement le féminisme, que l'on pousse dans le discours, que l'on accule dans le langage et dans l'aveu. Explique-moi comment t'as été violée, comment il a fait, parle et puis parle encore et puis parle et parle et parle et parle et parle. Donc dans des formes comme ça de, encore une fois, d'absolue désincarnation. Quoi. Si ces groupes-là passent à la violence, ça va modifier l'échiquier. Parce que ça va, il y a quelque chose qui va sortir qui est de l'ordre de l'inattendu. Ça, faut s'enregistrer. Mais je pense vraiment que ça changerait l'échiquier. C'est-à-dire qu'il faut une forme de coalition où ça ne soit pas toujours les mêmes qui endossent le stigmate de la violence, et qu'il faut que la violence elle émerge de quelque chose de là où elle est inattendue. Et c'est pour ça que tous les discours actuels, il faut défendre, il faut vraiment se méfier de l'énoncé, il faut défendre les femmes, il faut protéger les femmes, il faut sauver les femmes de la violence. C'est un discours qui est vraiment l'énoncé majeur de l'impérialisme. On est allé défendre les femmes, défendre les femmes dans la mission civilisatrice. On est allé défendre les femmes algériennes et les libérer de leurs hommes. On est allé défendre les femmes afghanes, etc. On est allé libérer les femmes afghanes. On va défendre les femmes, etc., etc. C'est un énoncé qui est un piège absolu. Donc tant qu'on est, par exemple, sur le mouvement contemporain qui se passe aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, il faut défendre les femmes, il faut faire quelque chose sur la violence, du coup on va criminaliser encore plus. C'est un outil de répression et encore qui va donner encore plus de légitimité pour réprimer des groupes qui sont déjà exposés à la violence maximale, sous prétexte qu'ils seraient la source de la violence d'ailleurs, et d'une violence sexiste, homophobe, etc. Donc si la violence, en fait, si à un moment donné il y a une coalition, mais que la violence elle émerge vraiment radicalement d'un endroit de cette géographie où elle n'est pas attendue, je pense que ce serait bien. Donc c'est au-delà des cours d'autodéfense féministe à l'école. C'est des bataillons. Non, vraiment. Pardon, c'est le moment où je m'enflamme.
Est-ce qu'il y a d'autres D'autres questions, remarques ? Après cet appel à constituer des bataillons de femmes. Non ? Bon. Enfin, on va s'arrêter là alors. Merci beaucoup, merci. Elsa, pour avoir ce passionnant.
C'était Elsa Dorlin à Terra Nova le 3 avril 2018 qui présentait son livre « Se défendre, une philosophie de la violence » paru aux éditions Zone, et elle était accompagnée, présentée par Oria Bentouami. Radio Livre.